Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir aujourd'hui à bord de votre émission Ensemble. En régie technique, c'est Simon Martin et me faisant face, Hélène Bénard, sophrologue chartraine. Et oui, nous allons parler sophrologie pendant une demi-heure. Un halo de mystère entoure encore la sophrologie alors que ces techniques sont appliquées dans les hôpitaux pour la préparation à l'accouchement, entre autres, mais aussi dans le milieu sportif pour optimiser les performances des athlètes. Cependant, la sophrologie, j'ai eu l'occasion de le mesurer en préparant cette émission, va bien au-delà de cela. Elle est en quelque sorte une science de la conscience mise au point dans les années 60 par un homme surprenant, monsieur Quecedo, Alfonso Quecedo. Hélène Bénard, avant d'évoquer votre propre parcours de sophrologue, avant d'évoquer tous les bienfaits qu'on peut en retirer, intéressons-nous à cet homme, monsieur Quecedo. Qui était-il et comment a-t-il créé la sophrologie?
Alors, Alfonso Quecedo était un médecin neuropsychiatre. Il a créé la sophrologie en 1960. En fait, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à toutes sortes de méthodes, donc la méditation, la relaxation, le zen, le yoga, enfin voilà. Et il a en fait fait une synthèse de ces méthodes. Il a vraiment recherché ce qu'il y avait de meilleur dans toutes ces méthodes.
Ouais. Il est carrément même allé en Inde. Il a vécu,
oui, tout
je
à
crois,
fait.
Dans l'ashram de Sri Aurobindo, par exemple, à Pondichéry. Il a été jusqu'au bout de sa démarche.
Voilà, tout à fait. Et en fait, l'idée, c'était justement de pouvoir trouver une méthode qui permette d'acquérir ou de renforcer un mieux-être général. Ça permet donc de développer une meilleure connaissance de soi en se reconnectant à son corps, à ses sensations, et pouvoir ensuite développer tous ses potentiels.
Alors, dans un livre où il évoque ses débuts à l'hôpital psychiatrique de Madrid, Quecedo écrit « Naquit en moi un désir de recherche de la conscience parce qu'il me paraissait que les maladies mentales étaient fondamentalement des altérations pathologiques de la conscience. Puissais-je connaître la conscience en harmonie ?» fut ma première question radicale. Cette conscience harmonieuse, c'est un peu le Graal des sophrologues, non ?
Oui, tout à fait. Donc la sophrologie, en fait, cela veut dire étude de la conscience en harmonie. Donc effectivement, on va s'intéresser au phénomène de la conscience. C'est avant tout prendre conscience de nos capacités et de nos valeurs.
Oui, parce que ça ne va pas de soi. On peut vivre, on peut passer complètement à côté de ses propres valeurs, ce qui est étonnant, mais...
Tout à fait. Ouais. Oui, on peut vivre suivant les valeurs des autres et puis à un moment donné se rendre compte que ça ne correspond pas à nos propres valeurs.
Voilà. C'était peut-être votre cas, on va le savoir tout à l'heure, parce que je vais vous interroger évidemment pour savoir comment vous en êtes venu à la sophrologie. On va d'abord entrer dans le vif du sujet. La sophrologie travaille sur la conscience, dont vous venez de le dire.
Oui.
Elle distingue trois états de conscience et trois niveaux de conscience. Alors, est-ce que vous pouvez nous les décrire ? C'est quoi les trois états de conscience?
Oui, alors il y a d'abord la conscience ordinaire, la conscience des gens, on va dire, en général. Ensuite, il y a la conscience pathologique, qui est là plutôt une conscience pour les personnes qui sont atteintes de psychose ou de schizophrénie. Donc ce sont des personnes en général qui ne vont pas travailler, qui ne vont pas pouvoir avoir accès à la sophrologie. Et puis autrement, il y a la conscience sophronique. Donc ça, c'est la conscience, c'est ce vers quoi on tend avec la sophrologie, c'est vraiment d'ouvrir notre conscience.
Oui, la conscience harmonieuse.
C'est ça. D'être en harmonie, en fait, avec soi-même, harmonie du corps et harmonie de l'esprit.
Et puis, il y a ensuite donc les trois niveaux de conscience. Ça, c'est encore autre chose. Et il est bien dit qu'il ne faut surtout pas confondre les trois états de conscience et les trois niveaux de conscience. Ces trois niveaux de conscience, c'est finalement la veille, le sommeil. Et il y a un troisième état de conscience sur lequel vous travaillez finalement.
Oui, l'état sophroliminal.
Voilà. Ça ressemble à quoi, l'état sophroliminal, alors ?
Et en fait, on est entre veille et sommeil. Ça correspond à l'état dans lequel on est... le matin quand on se réveille et puis le soir au moment de s'endormir. En fait, on est toujours conscient de ce qui se passe. On n'est pas dans une conscience endormie, contrairement à la relaxation. On est vraiment présent à ce qui se passe en soi.
D'accord. Est-ce qu'un état presque de rêve éveillé, c'est un état... Non, pas vraiment.
Non.
C'est autre chose.
Tout à fait.
C'est autre chose. Alors Alfonso Quesedo a développé une théorie des possibilités existentielles de l'être. C'est ce que j'ai lu. En gros, on peut donc rester toute sa vie dans la conscience ordinaire. C'est un peu le cas de beaucoup de gens, de moi-même par exemple. On peut aussi basculer dans la conscience pathologique, ce que je ne souhaite à personne. Et on peut aussi aborder la conscience harmonieuse, appelée aussi, donc vous l'avez dit, conscience sophronique. Mais c'est évidemment tout le mal qu'on peut souhaiter à notre prochain, mais comment on accède à la conscience harmonieuse en fait? C'est un travail sur soi?
Oui, tout à fait. Donc c'est un travail de connaissance de soi. Petit à petit, donc avec des exercices spécifiques, on va comprendre comment nous fonctionnons. Ensuite on va vouloir changer des choses, donc ne plus subir, et ensuite on va accéder à cette transformation de l'être. Mais c'est vrai que c'est une méthode qui est progressive, donc ça nécessite un entraînement régulier, pouvoir régulièrement pratiquer les techniques, c'est vraiment la force de la méthode. Et ensuite, vous aurez des résultats en fonction de vos besoins et de vos objectifs.
Ouais. Souvent, on compare la sophrologie à l'hypnose. Est-ce qu'il y a des ponts entre ces deux disciplines ou elles sont totalement différentes?
Alors, la sophrologie est vraiment une méthode différente. Il est vrai que Alfonso Quesedo, au départ, s'est intéressé à l'hypnose, mais il s'est rendu compte des limites de cette méthode. La sophrologie, elle, on est beaucoup plus large même dans ce qu'on propose. On ne va pas suggérer des choses. En fait, on laisse la personne beaucoup plus libre dans ce qu'elle a à vivre.
Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'entraînement sophrologique?
Oui. Alors, je vais parler donc l'entraînement en sophrologie. Donc, effectivement, les personnes que je reçois à mon cabinet viennent soit toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Donc, l'idée, c'est qu'ils s'entraînent régulièrement chez eux, qu'ils puissent pratiquer la séance, alors idéalement tous les jours, de façon à pouvoir véritablement avancer et pouvoir retrouver rapidement ce dont ils ont besoin. Alors effectivement, c'est un engagement. En fait, le patient s'engage vraiment à s'entraîner. C'est ce qui va permettre de dépasser les difficultés éventuelles et atteindre ses objectifs.
Ouais. Alors, je crois qu'il y a ce qu'on appelle la relaxation dynamique, qui est un des outils de la sophrologie, je crois.
Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que la relaxation dynamique, donc, c'est une méthode qui utilise des mouvements doux, et également donc, la respiration, la posture. Ce sont des mouvements qui sont réalisables facilement. Ce sont vraiment des exercices qu'a créé Alfonso Quesedo, ce sont des exercices spécifiques et qui vont agir rapidement. Par exemple, des personnes qui ont des problèmes de stress, suivant la zone où est situé le stress, on va pouvoir leur proposer des exercices adaptés.
Ouais.
Et c'est vrai qu'en général, alors c'est plutôt dans les séances de groupe où là, véritablement, les gens font de la relaxation dynamique, notamment la relaxation dynamique du premier degré, qui consiste à vivre son corps.
Ouais, ça, c'est la corporalité, parce qu'il y en a donc, il y a trois degrés de la relaxation dynamique. Hein. Il y a aussi la contemplation et la méditation. Là, on aborde presque la spiritualité, dites-moi.
Alors, en fait, il y a quatre degrés qu'on aborde au cycle fondamental. Donc, d'abord, le premier degré, vivre son corps. Ensuite, c'est vivre son esprit avec la relaxation dynamique deuxième degré. Ensuite, le troisième degré, effectivement, ça fait référence à la méditation, au zen. Donc là, c'est l'union du corps et de l'esprit. Et le quatrième degré, donc là, c'est la totalisation, c'est le corps, l'esprit. Et c'est notamment pouvoir accéder à nos valeurs. Voilà.
Oui. Alors, on va entrer plus profondément dans l'enseignement sophrologique, dans votre propre pratique. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment. Mais avant cela, on va écouter un peu de musique.
Thank you.
C'était notre ami pianiste François Cornu qui jouait une valse oubliée de Franz Liszt, qui avait peut-être une conscience harmonieuse, lui, je ne sais pas, en tout cas sa musique l'est. Oui, conscience harmonieuse, pourquoi ? Parce que nous parlons aujourd'hui de sophrologie en compagnie d'Hélène Bénard, qui est sophrologue à Chartres. On parlait dans un premier temps de Alfonso Quesedo, qui fut donc le créateur de la sophrologie. On a poussé un petit peu, on a entrouvert la porte de votre cabinet, mais on n'a pas bien vu ce qui s'y passait. On va y passer la tête pour voir en détail comment vous pratiquez la sophrologie. Tout d'abord, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, à titre personnel, vous êtes devenu sophrologue.
Alors, j'ai découvert la sophrologie en me rendant à un salon zen à Paris. Passionnée par le yoga et la danse, j'ai rencontré différents professionnels du bien-être et j'ai rencontré un professeur de yoga, également sophrologue. Il m'a vivement conseillé d'expérimenter cette méthode et j'ai donc décidé de suivre des séances de sophrologie de façon hebdomadaire, par curiosité avant tout.
Ouais. Donc, vous êtes une danseuse au départ,
hein ? Oui, tout à fait. Oui, je suis professeure de danse diplômée d'État. J'ai enseigné la danse pendant plusieurs années dans différentes structures, des clubs sportifs, des écoles de commerce et également des associations artistiques. Donc, effectivement, j'ai une approche du corps qui est déjà là. Et avec la sophrologie, c'est vrai que j'apprends à ressentir mon corps de façon très différente, à être beaucoup plus à l'écoute de mon corps et en même temps à connaître les limites du corps. Voilà. C'est vrai que la sophrologie est vraiment, vraiment un outil et puis est très intéressante pour quelqu'un qui déjà a abordé le corps d'une façon peut-être plus tonique. Là, c'est vrai qu'on est vraiment dans la bienveillance avec soi-même et ça, c'est un concept qui me paraît très important.
Et qui est très différent, évidemment, du rapport qu'on peut avoir quand on est une danseuse où on tire sur le corps, sur les articulations, où on se fait du mal dans la danse, non ?
Alors, en fait, on est souvent dans le dépassement de soi-même. On est toujours dans l'exigence de soi-même et puis il y a également le regard des autres, le jugement des autres. Je pense que... Effectivement, il est important justement d'établir un autre rapport au corps et être beaucoup plus dans le juste en fait,
oui.
Dans l'authenticité. Bon, moi, j'ai toujours recherché l'authenticité du geste, l'authenticité de la personne. Mais c'est vrai que parfois, même dans des concours, c'est vrai que l'ambiance n'était pas toujours favorable. Et oui. Voilà, je pense que la sophrologie apporte beaucoup.
Oui.
Dans cette conscience du corps.
Et le yoga, vous avez abordé le yoga pour la danse ou est-ce que c'est autre chose qui vous y a conduit ?
En fait, le yoga, je l'ai abordé l'année où je passais mon professorat de danse. Étant donné que c'était une année de remise en question, j'avais besoin de cet espace pour moi-même, pour pouvoir peut-être aussi bouger différemment. Et donc le yoga, j'ai d'emblée trouvé quelque chose d'intéressant dans le yoga. Ça m'a énormément aidée pour la respiration et également dans la façon de donner des cours de danse, hein, c'est-à-dire par exemple dans la façon de m'exprimer, pouvoir vraiment à être dans l'échange avec l'autre et arriver à mettre des pauses aussi dans ce que je disais et voilà, être vraiment dans une autre relation, oui.
Oui. Et dans la posture, parce que dans la posture de la danseuse, souvent les gestes ne sont pas naturels.
Oui.
Et est-ce que là, vous avez beaucoup appris avec le yoga ? Le rapport au corps est encore très différent aussi dans le yoga. Hein.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est pareil, on est surtout, c'est toujours une approche bienveillante, en douceur. On n'est pas là pour forcer. On est là pour être à l'écoute de soi-même. Et c'est vrai que je me suis d'emblée sentie à l'aise, c'est vrai, en cours de yoga. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée pour passer mon diplôme d'état de professeur de danse. Ouais. Parce que ça m'a donné une confiance aussi en moi, en mes possibilités. Et en yoga, il y a aussi les visualisations. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer une situation et vous vous projeter de façon positive.
Et c'est ce qu'on fait aussi en sophrologie, voilà. Si je ne m'abuse.
Exactement. Oui, la sophrologie est inspirée du yoga. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une méthode, la sophrologie, qui est pertinente. Hein. On utilise énormément la respiration aussi. Donc, ça, je pense que c'est fondamental. Ouais.
Alors, parlez-nous des études que vous avez suivies, parce que comment on devient sophrologue ? J'imagine qu'on ne peut pas s'improviser sophrologue.
C'est exactement, pas... ça ne s'improvise pas. Alors, la formation que j'ai suivie a été en présentiel. Donc, c'est très important que ce soit une formation en présentiel et non par correspondance. Ça a été une formation longue sur 2 années, ainsi que des modules de spécialisation. Alors, je me suis formée à l'Académie de sophrologie de Paris.
J'ouvre une parenthèse, parce qu'il y a plusieurs écoles de sophrologie.
Oui, tout à fait. Effectivement, il est possible aujourd'hui d'être formée en 6 mois ou d'être formée sur 2 ans.
Et ce n'est pas la même chose.
Non, c'est-à-dire que le sophrologue n'est pas un distributeur de techniques. Le sophrologue, en fait, doit connaître les techniques. Il doit d'abord les intégrer, bien évidemment. Et il doit maturer, réfléchir, mais au-delà de ça, il doit acquérir un savoir-être. Donc, il doit savoir créer la relation avec l'autre. Et ça, ce n'est pas en 6 mois que vous pouvez l'apprendre. Il faut quand même un temps réel de réflexion. Et donc, vous apprenez ainsi à être vraiment dans le lien avec la personne, quand vous recevez vos patients, de pouvoir comprendre la demande de la personne, et de pouvoir répondre au mieux à ses besoins.
Ouais. Alors, on devient psychanalyste en pratiquant soi-même, en suivant soi-même une psychanalyse. Est-ce qu'on devient sophrologue en faisant tout le parcours, c'est-à-dire qu'en pratiquant les 3 degrés de la relaxation dynamique? Est-ce qu'il faut avoir fait tout le parcours?
Alors non, pas forcément. C'est vrai que pour ma part, j'avais déjà pratiqué la sophrologie pendant plusieurs années avant. Je pense que c'était nécessaire pour moi d'abord de vivre la sophrologie et de vraiment pouvoir éprouver les bienfaits, c'est-à-dire aussi bien les changements dans la vie de tous les jours, avoir un meilleur sommeil. Pour moi, ça a été une des choses qui a tout de suite fonctionné, c'est l'amélioration du sommeil. Et puis...
Et vous rêvez beaucoup?
Ah oui, ça a énormément développé cette capacité de rêver, effectivement. Je me suis rendu compte de ça très rapidement. Et d'avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. Oui. Voilà. Ça, c'est quand même très important parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont recours aux somnifères. Et il y a quand même des solutions aujourd'hui, comme la sophrologie.
Meilleur pour la santé et la sécu.
Oui, puis surtout, c'est sur le long terme, vous allez acquérir des outils pour pouvoir vraiment être au mieux, en fait.
Ouais. Alors, parlons des exercices que vous pratiquez. Parce qu'il y a donc, vous me disiez, une de vos patientes est arrivée un jour et elle était très étonnée parce qu'elle pensait qu'elle allait s'allonger et peut-être être hypnotisée ou s'endormir. Oui. Ah non, pas du tout. On est acteur. Hein,
Tout à fait. C'est une méthode où on est acteur, effectivement. La méthode se pratique soit assis sur une chaise ou un fauteuil ou sinon debout. L'idée, c'est qu'effectivement, on est acteur. On est toujours dans une conscience éveillée.
Ouais. La posture assise, c'est aussi, je crois, inspiré un peu de zazen, la posture assise du zen.
Oui, alors dans le 3e degré, nous avons la posture, effectivement, qui s'y réfère. Mais nous avons sinon les postures de la vie quotidienne, c'est-à-dire le dos contre le dossier, ou sinon la posture dite d'activation de la conscience, où on est en avant, un peu plus en avant sur son siège, et qui permet justement de mieux vivre ce qui se passe en soi.
Alors, une fois qu'on est assis, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, en fait, une fois que l'on est assis, j'invite la personne à fermer les yeux et à se connecter à soi-même, à son corps, à ses sensations corporelles.
Et ça, c'est pas facile.
Cela dépend des gens, mais c'est vrai qu'en général, il y a d'abord une prise de conscience, en fait. Et je ne parlerai pas de facilité, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives. Voilà.
Oui. Un sportif, par exemple, sera plus réceptif à son corps parce qu'il a l'habitude de travailler avec lui. Vous, par exemple, qui étiez danseuse,
oui.
C'était votre outil?
Oui, tout à fait, c'était mon outil. Et effectivement, après, je pense que le sportif va peut-être préférer se mettre en posture debout pour être vraiment dans des postures se référant à son sport et voilà. Et se sentir peut-être plus...
plus en mouvement, quoi.
Plus en mouvement,
plus
voilà.
Dans son domaine, dans son domaine de compétences.
C'est ça, exactement.
Alors, Que viennent chercher les gens qui vont frapper à la porte de votre cabinet ?
Alors, les demandes sont très larges. Il y a énormément de demandes autour de la gestion du stress. Des personnes qui ont besoin d'apprendre à respirer, par exemple. Des personnes qui ont des tensions dans le corps, des douleurs liées au stress, qui ont besoin de les évacuer.
Une douleur, par exemple. Moi qui ai mal au dos, je vais vous voir, vous allez me soigner mon mal au dos, ou à la nuque.
Je dirais pas que je vais soigner, disons que je vais peut-être soulager. Mais en fait, il faut surtout comprendre pourquoi la personne a ces douleurs-là. Il y a forcément... on va pas juste se contenter d'évacuer les tensions. C'est en fait peut-être qu'il y a quelque chose à changer pour que ces douleurs ne soient plus là.
D'accord. Vous êtes donc à la limite, on va dire, du corps et de l'esprit, parce que ce sont des choses que la personne doit peut-être changer dans sa vie, peut-être, c'est ça ?
Peut-être, oui. Mais en fait, je ne vais pas dire à la personne ce qui est bon pour elle. Je vais en fait faire en sorte de faire émerger des choses. Mais voilà, c'est la personne aussi qui va faire le travail. C'est vraiment quelque chose de participatif, si vous voulez.
Ouais. Est-ce que la personne, quand vous travaillez avec elle, est dans un état de conscience ordinaire ou légèrement modifié ?
Elle est dans un état de conscience modifié. Oui, tout à fait.
Ça ressemble à quoi, en fait ? C'est un peu, pas un état hypnotique, mais elle n'est pas tout à fait dans l'état de conscience...
Elle n'est plus dans l'état de conscience habituel, ouais. Oui. D'ailleurs, souvent, il y a des prises de conscience qui se font au fur et à mesure des séances. Même des gens qui prennent conscience que la façon dont ils sont assis ne leur convient pas. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent et ce sont des choses voilà, subtiles et propres à chacun. Mais en général, c'est toujours pour aller vers quelque chose de plus positif et de mieux pour soi.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Et vous préparez également, et c'est votre travail en ce moment d'ailleurs,
oui.
Vous préparez des étudiants aux examens.
Voilà. Alors, effectivement, j'interviens à l'IUT de Chartres auprès des étudiants. Et effectivement, je propose comme thème la gestion du stress et la préparation aux examens. On sait actuellement que le stress génère beaucoup de problèmes chez les étudiants, notamment une perte de moyens au moment des examens, des trous de mémoire et également des problèmes de sommeil. Alors, j'ai un petit groupe d'étudiants où effectivement, je leur propose des techniques de manière à ce que progressivement, ils se sentent mieux dans leur corps, qu'ils puissent vraiment libérer les tensions, évacuer ce qui les dérange et puis aussi pouvoir mieux appréhender la période de l'examen.
Ouais.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour des dépressions, par exemple ? Est-ce que vous arrivez à aider les gens à sortir de la dépression ?
Alors, cela dépend du degré de la dépression. J'ai eu une personne qui était en dépression légère. J'ai pu lui proposer effectivement des techniques. Par rapport à cela, c'est vrai que la sophrologie, parfois, ne suffit pas pour une dépression.
Oui. Vous ne pouvez pas soigner la névrose, ce n'est pas le but finalement.
Non.
Bien sûr que non. Hein. Ouais. On vous travaille plutôt sur finalement l'effet, c'est ça, que sur la source du mal. C'est-à-dire que souvent, c'est associé à une partie du corps.
C'est pas forcément associé à une partie du corps. Non, non, ça peut être quelque chose de. Il y a pas. Voilà. Après, il y a des tensions qui sont là, mais souvent, les personnes qui viennent me voir, elles ont un problème. D'ailleurs, l'objectif, le premier objectif qu'elles me donnent, ne correspond pas forcément à leur objectif véritable. Donc. Il faut pouvoir en fait s'adapter toujours à la personne. Ça, c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure. Vraiment, chaque personne est singulière et je ne vais pas donner la même technique pour une même problématique. Ouais. Suivant la personne que je rencontre, ce sera forcément une adaptation. Et c'est pour ça que je dois vraiment développer cette écoute. Voilà.
Et évidemment, il est recommandé la plus extrême bienveillance.
Tout à fait.
Si on n'a pas la bienveillance, si on n'a pas le souhait de venir en aide, il faut faire autre chose. Hein.
C'est important, oui, effectivement, c'est la base d'ailleurs. Hein. Dans ce métier, on est vraiment dans la neutralité, c'est-à-dire que tout ce qui est exprimé, c'est accueilli, mais sans jugement et sans interprétation.
Ouais.
Il n'y aura en aucun cas une analyse et je ne vais pas donner à la personne, lui dire ce qui est bon pour elle. Ouais. Ça, en aucun cas. Et bien évidemment, je suis tenue au secret professionnel. C'est-à-dire que tout ce qui est exprimé reste secret, voilà.
Oui. Une dernière question, après on va donner vos coordonnées à nos auditeurs. Une dernière question, si on est bien portant, ou qu'on a du moins cette impression d'être bien portant, mais qu'on veut en savoir davantage sur soi, on peut venir vous voir aussi.
Oui, C'est-à-dire que
tout le monde peut s'intéresser à la sophrologie pour d'autres raisons, j'allais dire, que médicales ou sanitaires.
Oui, ça peut être pour leur développement personnel.
Le développement personnel.
Tout à fait, oui.
C'est le cas ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour ça ?
Alors pour l'instant, ça ne s'est pas présenté, mais effectivement, on peut travailler là-dessus. Des personnes qui ont besoin tout simplement d'améliorer peut-être certaines choses dans leur vie, être plus en accord avec leurs valeurs, par exemple. Voilà, c'est une démarche, effectivement.
Hélène, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous pour nous expliquer toutes ces arcanes de la sophrologie. Merci à Simon en régie technique. On va donner vos coordonnées si les gens souhaitent vous joindre. Comment ils font ?
Oui. Alors, mon numéro de téléphone, donc le 06 67 06 10 43. Sinon, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Hélène Bénard, sophrologue, ou sinon sur mon site internet www.chartres-du-6-bien-être.com.
Que c'est bien dit. Merci beaucoup.
Merci.
À très bientôt. Au revoir.